Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous avez reconnu une version métal du générique de Game of Thrones, une série sans intérêt qui tourne à vide, dont le résultat lourdeau décrit un univers trop complexe pour être passionnant et trop plein de sexe et de violence. Ainsi parlait non pas le chroniqueur télé du Figaro, mais celui des Inrock au moment de la diffusion des premiers épisodes de la série en France en 2013. Et en un sens, on peut le comprendre. Une mise en scène soignée, des personnages littéraires, complexes et nuancés, des dialogues intello et philosophiques sur le pouvoir et la vanité de l'existence, une intrigue aussi difficile à suivre qu'une pièce de Shakespeare et une violence qui ne recule devant rien, dotée d'une vision du monde extraordinairement noire, la série Game of Thrones accumule tout ce qui n'est pas censé marcher dans la culture de masse, et pourtant ça marche. Depuis son lancement par HBO en 2011, en 7 saisons, Game of Thrones s'est imposé comme un phénomène non seulement américain mais planétaire, sans aucun équivalent. D'après le Hollywood Reporter, chaque épisode de la saison 7, par exemple, a été suivi en moyenne par 31 millions de téléspectateurs sur la chaîne HBO. Et d'après le site Variety, elle a été téléchargée illégalement ou regardée en streaming illégal plus d'un milliard de fois à la fin de sa diffusion lors de l'été 2017. Game of Thrones est la série la plus populaire de l'histoire de HBO, mais aussi la plus populaire de toute l'histoire de la télévision. La série qui aura rythmé les années 2010 est ainsi devenue l'équivalent télévisuel de ce que furent les Beatles, les Rolling Stones ou Madonna en leur temps, et ses codes, son univers et son langage sont aujourd'hui partout. Alors pour parler de ce succès phénoménal, avec nous aujourd'hui William Blanc, bonjour. Vous êtes historien, médiévaliste, spécialiste des cultures populaires. Vous allez publier chez Libertalia le 5 mai prochain « Winter is Coming », une brève histoire politique de la fantaisie. Romane Beaufort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes licencié de mathématiques appliquées aux sciences sociales, option démographie. Vous êtes statisticienne à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Tout à fait.
Et vous avez créé avec le démographe Lucas Mélissant un site qui s'appelle « Démographie Got pour Game of Thrones, un site entièrement consacré à Game of Thrones dans lequel vous analysez très sérieusement et très statistiquement les différents aspects de la série, on va y revenir. Et Sylvaine Bataille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en littérature et en cinéma des pays anglophones, spécialiste de Shakespeare, et aussi responsable scientifique de quelque chose qui s'appelle le GUEST, qui est un groupe universitaire d'études sur les séries télévisées.
Absolument.
Alors, pour commencer, je voudrais qu'on aborde, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, l'aspect mondial du succès et l'aspect mondial de la série elle-même. Hein. On vient d'entendre un extrait de la musique repris en version métal, mais l'auteur de la musique lui-même, Rabin Djawadi, est de père indien, de mère allemande. Il a travaillé avec Yang Zimou et Benito Del Toro. La série a été tournée un peu partout dans le monde, à Dubrovnik. Et Dubrovnik est devenu depuis une espèce de lieu de pèlerinage pour l'âme qui évoque la marche de la honte d'un des personnages, Cersei Lannister. Les touristes s'y pressent hein, par milliers. C'est devenu quasiment un site historique, au même titre que certains aspects de Notre-Dame de Paris dont on parlait la semaine dernière, qu'on attribue au Moyen-Âge et qui date en fait du 19e siècle. C'est-à-dire une recréation comme ça, un peu partout, à Castlewar en Irlande du Nord, où la série a aussi été tournée, à l'Alcazar de Séville, à Malte, en Islande, au Maroc, etc. Qu'est-ce qui veut parler de cet aspect mondial de la série et d'imaginaire mondial, en quelque sorte?
Si je peux me permettre, ce qui est intéressant dans cet aspect, c'est qu'en fait, ça fait écho en fait au succès mondial de la fantasy qui a lieu en fait depuis le succès de la trilogie du Seigneur des Anneaux, en fait, hein, donc qui a été diffusé sur les écrans au début des années 2000. Donc c'est un peu dans Game of Thrones, c'est un peu dans le prolongement de ce succès-là, en fait, hein, la fantasy est en train de devenir un genre populaire majeur au niveau mondial. Mm-hmm. Bon, alors ça, après, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est aussi non seulement parce que ça fait écho à la fascination pour le Moyen-Âge qui est de plus en plus importante dans nos sociétés.
Oui, alors on va en parler,
aussi,
oui.
Ouais, mais aussi parce que aussi, bah, ça fait écho justement à des angoisses qui sont des angoisses très contemporaines, notamment par rapport à l'environnement. Donc voilà, là pour le coup, Game of Thrones est entré rentrer vraiment en résonance avec ça, mmh. explique le succès vraiment mondial de cette série.
D'accord.
Si je peux oui. rebondir sur la fantasy, oui, oui, c'est vrai que Game of Thrones prend un genre, la fantasy, qui au départ est un genre de niche pour vraiment des fans purs et durs, et en fait quelque chose de beaucoup plus mainstream en le mélangeant avec d'autres influences. Et Martin a de nombreuses influences hors la fantasy. Il a par exemple
Martin, c'est l'auteur de la
alors oui
de,
voilà
des livres,
c'est l'auteur des livres
sur lesquels est basée la série.
Sur lesquels sont basées la série, et c'est vrai qu'il cite des influences très variées, dont Shakespeare effectivement, mais aussi par exemple les comics Marvel. Et je crois que la série, elle s'inscrit aussi dans un mouvement plus général sur les séries télévisées américaines depuis les années 2000, qui sont devenues des objets extrêmement connu et presque d'addiction pour de très très nombreux téléspectateurs dans le monde entier, et qui dépasse même les limites de la télévision à présent.
Romane Beaufort.
Oui, finalement, ce qui peut expliquer aussi le succès de la série, c'est la richesse de son univers, la série et aussi des livres. On a des personnages qui sont vraiment très réalistes, qui sont pas manichéens, peut-être à la différence un peu de Tolkien, avec des personnages qui ont des défauts, des qualités, et auxquels on peut plus facilement s'identifier. On a aussi une géopolitique propre, des langages vraiment propres à l'univers. C'est aussi cette richesse, je pense, qui explique le
On va en parler en détail, mais d'abord, pour l'histoire de la série elle-même est intéressante. Enfin, comment on passe des livres à la série, hein. On parlait de Georges Raymond Martin tout à l'heure. C'est l'auteur des livres qui ont inspiré la série. Au départ, c'est un objecteur de conscience qui a refusé de partir au Vietnam. Il s'est porté volontaire dans le cadre du programme dans la lutte contre la pauvreté dans les années 70 aux États-Unis, et puis tout en écrivant à côté de ça des romans de science-fiction. Et où dans les années 80, il a travaillé pour la télévision comme scénariste sur plusieurs séries télé, dont La Cinquième Dimension. Donc déjà, dès le début, il y a chez lui une attirance pour les mondes autres. Et au début des années 90, il se lance dans le cycle du Trône de Fer, qui s'appelle A Song of Ice and Fire en anglais, un chant de glace et de feu. Et le premier volume est publié en 96, et c'est en janvier 2007 que HBO acquiert les droits d'adaptation pour en faire une série télé dont le pilote est tourné à la fin 2009. Et il me semble que la temporalité est importante parce qu'on est dans le moment de l'après-guerre froide, c'est-à-dire un moment où le cadre géopolitique traditionnel ont disparu et où va s'imposer progressivement une vision de l'histoire qui va commencer vraiment à apparaître dans les années 2000. Une vision de l'histoire peut-être pas exactement multipolaire, mais en tout cas où la concurrence entre les divers pouvoirs est beaucoup plus forte et beaucoup plus anarchique qu'elle ne l'a été pendant la guerre froide. Et il me semble que quelque part, Game of Thrones illustre ça, comme il illustre la fin de l'idéal de classe moyenne et une vision du monde où les rapports de force vont prédominer, non ? Qui veut ? Oui. William Blanc.
Oui, mais je vais revenir en fait au début de ce que vous disiez par rapport à Martin. Mm-hmm. En fait, je pense que là, en effet, vous avez dit qu'il était objecteur de conscience pendant le Vietnam. Mm-hmm. En fait, il faut comprendre que c'est pour ça que moi, j'aime pas trop opposer Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, parce qu'en fait il y a une véritable filiation entre les deux. Martin lui-même, même s'il critique Le Seigneur des Anneaux, c'est un grand fan de Tolkien. Et en fait, pour toute la génération des baby boomers, hippies, etc. et tout, Tolkien c'est vraiment une lecture de chevet en fait. C'est leur fuite du monde moderne. Voilà, c'est en plus Tolkien est assez nettement, c'est les personnages qu'il met en avant, c'est plutôt des personnages qui sont pas des guerriers et tout, donc ça fait écho aussi au pacifisme des années du Vietnam. Tolkien lui-même a été marqué par la Première Guerre mondiale, il l'a dit. Donc Martin, en fait, il s'inspire réellement de ça, en fait, il se situe dans cette continuité. Et en fait, son premier roman qui annonce un tout petit peu Game of Thrones, hein, parce que c'est un roman qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Armageddon Rock, qui part en 83, en fait, ça décrit l'histoire d'un groupe de musique, en fait, de rock, qui s'inspire de Tolkien, qui reprend l'imagerie de Tolkien. Le groupe s'appelle les Nazgûl, qui parcourt l'Amérique de Reagan pour semer les graines de la révolte, en fait. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée que la fantasy est une espèce de un genre politique qui est une critique, en fin de compte, du monde moderne. Donc voilà, même si en effet, moi je suis d'accord avec vous, évidemment, il y a l'aspect multipolaire, il est assez évident, en fait, après, quand on regarde Game of Thrones quand on regarde plutôt Song of Ice and Fire, et les années de rédaction des romans. Il faut aussi faire une petite différence, si je peux me permettre, entre les romans et la série, parce qu'il y a quand même des différences assez notoires, notamment dans les dernières saisons.
Sylvaine Bataille.
Ben oui, effectivement, c'est ce que je voulais souligner, c'est que en fait, les dernières saisons, en fait, ne s'appuie plus sur la série de livres, puisque...
Ils n'ont pas écrit.
Ils ne sont pas encore écrits. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant aussi au niveau de l'adaptation. Puisque là, l'adaptation a dépassé le roman adapté, parce que Martin prend son temps pour écrire sa série de romans.
Oui, Romane Beaufort.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, je connais essentiellement la série et pas les livres, mais c'est vrai qu'on voit aussi des évolutions dans la série sur ces dernières saisons, même au niveau finalement des décès. On a beaucoup travaillé sur les décès avec mon collègue Lucas Mélissant. On voit que depuis un certain nombre de saisons, les scénaristes ont du mal à tuer des personnages centraux, alors que Martin nous avait habitués finalement à nous faire croire que certains personnages étaient les protagonistes pour finalement mieux les tuer par la suite.
Oui, c'est une des caractéristiques des premières saisons en particulier.
Tout à fait.
Où les bons, les héros sont ou ceux qui croient en quelque chose en fait sont systématiquement manquent terriblement de sens politique. En fait, il y a une vraie opposition dans la série entre ceux qui ont un grand sens politique et qui cherchent à survivre et ceux qui sont mus par des valeurs comme l'honneur, comme Ned Stark dans la première saison, ou comme le désir de bien faire. Comme Robb Stark dans la saison 2 et 3, et dont les morts sont particulièrement spectaculaires, en particulier celle de Robb Stark, qu'on ne voit pas du tout arriver, et c'est particulièrement sanglant. C'est une des choses sur quoi le succès de la série repose, cette espèce d'inattendu, de sauvagerie.
Tout à fait, oui. Le côté la mort imprévisible qui frappe au hasard, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui a plu, le fait d'être choqué. Nous, ce qu'on a pu montrer quand même, c'est qu'elle ne frappe pas tout à fait au hasard. Il y a quand même des logiques à la mortalité dans Game of Thrones. Par exemple, c'est assez évident, mais les combattants ont des plus gros risques de décéder, tout comme les personnages qui sont nobles, puisqu'ils sont soumis aux intrigues politiques. Donc il y a quand même des logiques, même si on a connu des morts qui nous ont énormément surprises.
C'est-à-dire que les personnages les plus politiques et les moins directement combattants sont plus aptes à survivre. C'est un des éléments de la série. Il y a un point quand même sur lequel il faut revenir tout de suite, c'est la question du parce que la série a choqué beaucoup aussi en raison du sexe et en raison de la violence sexuelle, puisqu'un certain nombre de personnages, il y a à la fois des femmes très fortes dans la série, mais elles commencent toujours très mal. Sansa Stark, évidemment, celle qui va devenir la Khaleesi, qui commence par se faire violer par Drogo, par l'homme qu'elle épouse de force, avant petit à petit de prendre le pouvoir. Romane Beaufort, vous avez sur votre site, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec les féministes qui dénoncent la série comme misogyne et sexiste ?
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce thème, qui est un débat très important autour de Game of Thrones. Et en effet, on peut noter que parmi les personnages centraux, on a des personnages féminins très fort. Sur les 6 personnages les plus vus à l'écran, 4 sont des femmes. Donc effectivement, les femmes ont vraiment une place importante dans la série. Pour autant, si on prend du recul et qu'on ne se concentre pas sur ces arbres finalement qui cachent peut-être la forêt, on se rend compte que sur les 400 personnages nommés, il n'y a finalement que 100 femmes, qu'elles sont beaucoup plus souvent prostituées. Il y a 17% de femmes prostituées, et c'est le cas de moins d'1% des hommes. Elles sont beaucoup plus souvent montrées nues, elles sont beaucoup plus jeunes que les hommes, elles ont 13 ans de moins en moyenne. Donc tous ces éléments font quand même qu'on peut avoir du mal à affirmer que Game of Thrones est une série féministe. Il faut quand même faire attention et pas forcément se laisser avoir, entre guillemets, par les personnages centraux uniquement.
L'autre question, c'est est-ce que c'est vraiment le sujet ? Parce que la série montre un univers très violent où les rapports de force sont constants et donc effectivement les femmes plus jeunes sont littéralement vendues dans des mariages arrangés et en situation d'infériorité dès le départ et chacun se bat dans la série avec les armes qui lui sont attribuées par l'univers de départ. Non ?
Ben, je crois qu'il y a effectivement les statistiques et puis il y a ces personnages marquants qui vont dépendre aussi un petit peu de chaque téléspectateur et téléspectatrice. Voilà, c'est vrai que des personnages comme Brienne, qu'on a vu encore dans le dernier épisode qui vient d'être diffusé, c'est quand même un personnage qu'on n'oublie pas et c'est vraiment une femme forte qui a réussi à faire sa place dans un monde d'hommes, qui est promue au rang de chevalier dans le dernier épisode, qui est un personnage qui peut nous marquer. Ensuite, c'est un univers tellement vaste que c'est vrai que chacun peut y prendre aussi un petit peu ce qu'il veut. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on va trouver des points de vue très, très contrastés avec des personnes, par exemple, des critiques qui vont dire... Martin, en fait, et les scénaristes de Game of Thrones qui se fondent donc sur l'œuvre de Martin, défend la présence des viols, des violences faites aux femmes dans la série, en disant que c'est par souci de réalisme, parce que en fait, il s'inspire de la société, des mœurs médiévales. Et c'est vrai que voilà, il y a des gens qui disent, en même temps, les dragons, les sorcières, c'est pas réaliste. Donc finalement, pourquoi pas en profiter pour aussi changer un petit peu la représentation des femmes et ne pas en faire majoritairement des victimes.
Mais enfin, elles sont loin d'être uniquement des victimes dans la série. Hein. Mmh. Alors, sur cette représentation du Moyen-Âge, justement, je voudrais qu'on s'y arrête un peu, parce que c'est intéressant d'essayer de voir, William Blanc, vous êtes historien et médiévaliste, et
oui.
C'est intéressant de voir comment est construite l'atmosphère médiévale dans la série, parce qu'elle est, en fait, c'est un patchwork de plusieurs choses, il me semble.
Oui, en effet, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, ça permet aussi de rebondir sur la question des femmes et de la violence, en fait, parce que en fin de compte, parce que il y a eu tout un débat au début de la série pour savoir si la série était réaliste ou pas. Moi, j'avais écrit un article par rapport à ça. En fin de compte, on opposait encore une fois Tolkien qui serait pas réaliste, alors que Tolkien était un fin connaisseur du Moyen Âge, à Martin qui lui serait réaliste, alors que Martin, en fin de compte, sa culture assez nettement. Quand on voit ses déclarations, quand on voit les citations, en fait, on se rend compte que sa culture, c'est plus une culture de fantaisie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Tolkien et Martin, ça oppose, en fin de compte, deux visions, en fait, du Moyen-Âge, qui sont des visions complètement irréelles, en fait. Hein. D'un côté, vous avez un Moyen-Âge plutôt doré, plutôt beau, en fait, avec Tolkien, et Martin, un Moyen-Âge plutôt sombre. Et ça, en fait, cette vision du Moyen-Âge très sombre, extrêmement dure, sanglante, elle a cours depuis le 19e siècle, en fait, elle est très ancienne, hein, donc on peut la retrouver parfois un peu chez Hugo, d'ailleurs, en passage dans Notre-Dame de Paris, on peut la retrouver aussi, toute la question de la lascivité, de l'hypersexualisation, alors ça, il y a aussi le côté HBO, hein, voilà, il y a aussi une culture de chaîne, en fait, ça, c'est pas trop mon sujet, mais il y a quand même ça qu'il faut noter, mais en fin de compte, toute cette hypersexualisation, elle vient aussi des représentations du Moyen-Âge et de l'orientalisme, parce qu'en fait, Game of Thrones mélange dans certaines scènes de l'esthétique très médiévalisante et orientaliste, mais en fin de compte, tout ça naît à la même époque, au début du 19e siècle, et les deux font écho l'un à l'autre, en fait. Hein, donc, des gens qui vont être fascinés par le Moyen-Âge comme Hugo vont aussi être fascinés par l'Orient, mais l'Orient fantasmé, le Moyen-Âge fantasmé, en fait.
Exactement.
Hein. C'est-à-dire donc, en fait, on est dans une altérité complète, en fait, dans Game of Thrones. Donc,
Mais c'est probablement, je me demande si c'est pas une des raisons de son succès. On a fait l'émission de la semaine dernière, justement, sur Notre-Dame de Paris et sur Victor Hugo et Viollet-le-Duc et comment il y a une réinvention du Moyen-Âge avec Notre-Dame de Paris. Il y a quelque chose d'un peu similaire dans Game of Thrones. Certains éléments viennent du 7e siècle dans la série. D'autres sont empruntés clairement au fameux mur qui protège Westeros des sauvages et des marcheurs blancs. C'est inspiré du mur de l'empereur Adrien. On a d'autres imageries dans la série qui viennent plutôt du 14e ou du 15e siècle. C'est ce mélange-là qui crée une sorte d'imaginaire c'est un réalisme rêvé, en quelque sorte. C'est pas un réalisme réaliste.
Quand vous parlez de patchwork d'époque, en fait, ça c'est pareil, c'est un grand classique de la fantasy. Hein. Vous l'avez déjà chez des auteurs comme Howard, hein, le créateur de Conan, en fait. Hein. D'ailleurs, vous avez parlé de Khal Drogo. Khal Drogo, au début de la série, c'est clairement Conan, en fait. Voilà, surtout que ce qui est intéressant, c'est que Martin tue, en fait, hein, l'archétype conanesque, en fait, hein, pour remplacer par d'autres archétypes, en fait. Hein. Donc, mais en effet, vous avez complètement raison. Là, on est dans une espèce de Moyen-Âge réinventé, refantasmé, en fait. Hein, donc, Martin, en fait, et les créateurs de la série, en fait, prennent tout ça, et puis, placent différents archétypes là où ils sont attendus, en fait. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est dans des choses assez connues, en fin de compte.
Sylvaine Bataille.
Ben oui, absolument, parce qu'il y a ce fond shakespearien auquel la série puise sans cesse, notamment les pièces historiques de Shakespeare qui sont la propre réinvention du Moyen-Âge par Shakespeare. C'est une influence reconnue par Martin notamment, mais en fait, une fois qu'on tire ce fil, on va trouver énormément de points communs. On parlait des personnages féminins forts, des femmes fortes, des femmes guerrières. Voilà, elles ont leur antécédent dans les pièces historiques, avec Marguerite d'Anjou, par exemple, qui est la femme d'Henri VI et qui est une véritable guerrière et qu'on peut voir en toile de fond de Cersei, mais aussi de Catelyn Stark, par exemple. Vous avez aussi les les personnages comme Richard III ou Henri V qui vont irriguer la création du personnage de Tyrion Lannister. Donc finalement, vous avez tout ce fond shakespearien de lutte entre les familles, mais aussi à l'intérieur des familles, avec aussi beaucoup de violence. Alors pas forcément. Il y a une scène peut-être assez choquante, mais qui est tirée de Shakespeare, pas des pièces historiques, mais d'une des premières tragédies de Shakespeare extrêmement sanglante, qui est Titus Andronicus.
Oui, tout à fait.
C'est lorsque Arya se venge de Walter Frey en lui faisant manger une tourte, je crois, qui est faite avec la chair de ses propres enfants. Et ça, c'est tiré tout droit de la fin de Titus Andronicus. Donc finalement, il y a ce filtre shakespearien qui intervient très fortement, parce que Shakespeare est partout dans la culture anglo-saxonne. Et finalement, c'est pour ça aussi que ce sont des choses assez familières, effectivement.
Et puis aussi parce que Shakespeare, lui aussi, déjà réinvente le Moyen-Âge.
Voilà.
C'est pas un Moyen-Âge réel dans
Absolument.
Les pièces de Shakespeare. C'est largement réinventé.
Mais dans
la série, il y a un mélange de on voit un monde qui est défini par des structures féodales et vassales qui sont effectivement conformes au Moyen-Âge, enfin au 12e ou 13e siècle en tout cas. On sent aussi que c'est un univers qui est sur le point de changer, mais qui change jamais vraiment. C'est-à-dire que on les épées, par exemple, à un moment donné, il y a le père de Lannister qui donne à son fils une épée en acier, qui est en fait une précédente épée beaucoup plus lourde, retravaillée. Donc on sent qu'il y a une évolution des technologies, mais c'est comme une sorte de Moyen-Âge qui serait sur le point d'entrer dans la Renaissance, mais qui n'y entre pas, la série montre un monde qui est à la limite d'un bouleversement constant, mais qui n'arrive pas complètement, qui est quand même en même temps figé dans une espèce de temporalité, non ?
Oui, alors sur la temporalité, c'est une question assez complexe, parce qu'en effet, vous avez raison, on a l'impression d'une société qui ne bouge pas, surtout qu'en fait, on apprend quand on lit notamment les romans que ça fait plusieurs millénaires qu'en fait la société, même s'il y a des évolutions politiques, la société reste technologiquement en fin de compte un peu la même. Mais là pour le coup, là c'est pareil, c'est assez classiquement de la fantasy en fait. Hein. Donc Tolkien, c'est pareil, les trois âges dans Tolkien, la technologie évolue quasiment pas en fait. On est dans un Moyen-Âge figé, mais néanmoins, et c'est là où c'est intéressant, tout comme chez Tolkien, c'est quelque chose de figé, c'est un temps figé, mais qui va évoluer vers une forme de catastrophe en fait. Donc l'horizon, que ce soit chez Tolkien ou chez Martin, c'est un horizon catastrophique en fait, ou apocalyptique. Et là, il y a un changement important.
Oui, et la technologie, elle est paradoxale, parce que c'est d'une certaine manière les dragons sont la technologie. C'est-à-dire que c'est des choses qui viennent du passé très lointain, mais qui symbolisent une force incontrôlable. On peut y lire ce qu'on veut, on peut y lire l'énergie atomique, on peut y lire les armes de destruction massive, mais on voit bien que la Khaleesi elle-même a du mal à un moment donné, quand les dragons commencent à devenir adultes, a du mal à les contrôler. On ne sait pas comment ça va finir d'ailleurs, puisque la série est en cours.
C'est assez compliqué, parce que les dragons, en effet, n'importe qui pourrait coller n'importe quoi, en termes de métaphore sur les dragons, quoi. Le truc, c'est qu'encore une fois, quand on regarde, là, je me place un peu dans l'histoire de la fantasy, en fait, quand on regarde un petit peu l'évolution de la représentation des dragons, les dragons représentent une forme de magie oubliée, en fait, qu'il faudrait retrouver, en fait. Mais sauf que, limite, c'est un peu comme les forces de la nature, hein, et le problème, c'est que les dragons, c'est des forces de la nature ambiguës, comme n'importe quelle force de la nature, en fait. Hein. Quand on les déchaîne, ça peut aller très bien, tout comme ça peut aller très mal. Et là, justement, on a un point, cette semaine, en fait, je pense que dans le prochain épisode, on va voir qu'il y aura, à mon avis, il y aura peut-être un souci entre les différents dragons, vu qu'il y en a un qui est du côté des marcheurs blancs, quoi. Donc, donc voilà, c'est en fin de compte, c'est une question assez compliquée, la représentation des dragons.
France Culture, Signe des temps, Marc Wetzmann.
I'm the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts. The ones she had lost and the ones she had found. The ones who had loved her the most. Once who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave.
C'était Florence and the Machine, Jenny and the Old Stone, une chanson composée par Martin dans le cycle romanesque qui a été adaptée pour la série par la chanteuse indépendante britannique. Donc c'est un exemple de création. Cette série, c'est vraiment une création multimédia, un peu exactement comme ce qu'on disait la semaine dernière à propos de Notre-Dame, où les gargouilles ont été créées au 19e, enfin un certain nombre de gargouilles ont été créées au 19e siècle par Viollet-le-Duc, mais retravaillées ensuite par les photographes, par les graveurs, etc. C'est une création collective et qui a un écho planétaire absolument tout à fait étonnant quand même, qui dépasse de loin même les frontières européennes ou occidentales. Oui, William Blanc.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ajouterais en plus, alors vous avez entièrement raison, et d'autant plus que le multimédia, c'est pareil, c'est un peu mon obsession, mais la fantaisie, depuis les années 60, elle est multimédiatique aussi, parce que bon, vous allez avoir les romans, mais vous allez aussi aller voir des comics, des bandes dessinées, des jeux de rôle, puis des jeux vidéo, donc les univers sont en expansion constante, en fait. C'est même l'intérêt des univers de fantaisie, c'est qu'ils sont en expansion constante. Là, je pense par exemple à l'univers de The Witcher, en fait, qui prend une importance de plus en plus importante. Mais il y a aussi un autre élément, en fait, il y a le public aussi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que dans les débats qu'il y a eu sur Game of Thrones, et on a parlé tout à l'heure des débats, notamment sur la question du sexisme, en fait, il y a très nettement une influence de ces débats sur la série aussi. Mm-hmm. Moi, je vois, là, notamment, il y a pour moi un élément qui est central, c'est l'élément des marcheurs blancs, en fait, donc ces espèces d'armées de, pour simplifier,
de morts vivants, oui.
En fait, voilà, donc qui veulent détruire le monde, qui veulent plonger le monde de Westeros dans un hiver éternel. Quand on lit bien les romans, en fin de compte, ils sont très en retrait dans les romans. Et pareil, le roi de la nuit, qui est un peu leur chef, en fait, il est à peine cité. Même c'est pas pour moi le même personnage. Et en fait, c'est devenu des éléments centraux dans la série. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, c'est aussi dû au fait que pour beaucoup de personnes, quand ils ont commencé à regarder la série, beaucoup de personnes ont fait le lien entre les marcheurs blancs et le réchauffement climatique. Et ça commence dès 2011-2012. Quand on lit les interviews de Martin à cette époque-là, quand tu lui poses la question, il dit « Bon, non, bah, moi, j'avais pas fait ça, en fait, dans mon livre. » Il disait lui-même que son livre, c'était pas du tout une métaphore par rapport à ça. Et en fait, c'est devenu ça, en fait, assez nettement, parce que il y a une énorme... La plupart des gens dans le public ou des commentateurs publics ont fait le parallèle entre ces marcheurs blancs et la question du réchauffement climatique.
En tout cas, entre les marcheurs blancs et la question d'un sentiment d'apocalypse et de fin du monde, ça c'est clair.
Tout à fait. Ouais. Bah là, par exemple, vous allez même voir carrément des gens qui vont... Vous avez parlé des usages politiques au début de la l'émission, vous allez voir des gens qui portent en fait des banderoles, notamment dans les dernières manifestations sur le climat, manifestations qui sont des manifestations mondiales, mais on va voir Winter is not coming, une espèce d'allusion évidemment à un des slogans de la série. Donc il y a vraiment, et en reprenant plus la police de la série, il y a clairement en fait un usage politique assez fort.
Alors on parlait tout à l'heure, pendant la musique, on parlait de la question du sexisme et de la question des femmes. Est-ce que Roman Beaufort Oxford, dans vos statistiques, vous arrivez à savoir si les femmes sont plus choquées que les hommes par la violence de la série ou pas?
Alors non, on n'a pas d'études là-dessus. Peut-être intuitivement, mais c'est vraiment personnellement. J'aurais peut-être dit que les filles auraient été plus enclines à abandonner la série parce que les scènes de violence sont insoutenables, mais c'est un préjugé, donc non, j'ai pas de chiffre là-dessus.
On a une étude du centre de données Nielsen, parce qu'au début, les journalistes américains ont pensé que l'audience serait essentiellement masculine, et c'est pas exactement le cas. D'après le centre de données Nielsen, qui calcule les audiences, en 2013, la série n'était pas tellement divisée par genre, l'audience en tout cas. Il y avait 42% d'audience féminine aux États-Unis, ce qui est un peu moins que l'audience masculine, mais pas tellement en réalité. Donc il semble que ce n'est pas, alors que c'était l'époque en plus des saisons les plus dures sur ce plan, donc il semble que ça ne joue pas tellement, en tout cas aux États-Unis.
Peut-être que le succès est tellement devenu planétaire aujourd'hui, il est difficile de regarder la série sans être un petit peu exclu socialement. Il y a une espèce d'obligation sociale finalement avec cette série.
Regarder, oui.
Et même parmi les fans, même quand on regarde la série, on nous pousse à la regarder très très vite avec l'univers d'Internet et le monde du buzz, du spoil, on divulgachit si on veut utiliser un terme plus québécois. Mais c'est vraiment devenu une série incontournable. C'est peut-être aussi comme ça qu'ils ont conquérir le public féminin. On peut faire que des hypothèses là-dessus, en fait.
Alors, un des éléments qui est peut-être qui me semble être un des éléments de succès de la série, un des éléments les plus originaux et là où on retrouve vraiment l'univers de Shakespeare, c'est qu'on décrit un Moyen-Âge sans église, sans Dieu. Sylvaine Bataille, très proche du roi Lear, en fin de compte, ou de Macbeth.
Oui, effectivement, des conflits comme ça qui sont centrés sur l'humain, sur comment le héros travaille avec sa propre conscience. Macbeth, il tue le roi pour devenir roi à sa place, et ensuite il est travaillé par tout cela.
Par sa propre trahison.
Alors, il y a Dieu dans Shakespeare quand même. Il y a la religion, c'était tellement prégnant à l'époque de Shakespeare. On peut pas dire que ça soit des pièces sans Dieu. Mais le roi Lear est une pièce très nihiliste, effectivement. Voilà, le roi Lear, dans le roi Lear, il y a aussi la noirceur qu'il y a dans Game of Thrones, effectivement.
Tout à fait. De monde chaotique.
Des personnages qui meurent, on se demande pourquoi, comme Cordelia, par exemple, qui meurt à la fin de la pièce et qui est un grand choc aussi pour les spectateurs de cette pièce, effectivement. Il y a une religion quand même dans Game of Thrones. On l'a un peu oublié maintenant, mais il y a quand même la sorcière.
Il y a la sorcière rouge. Oui, mais c'est une religion extrêmement cruelle, puisqu'elle elle entraîne un des personnages à sacrifier sa fille, comme elle est même dans le tuyau Iphigénie, pour pouvoir gagner sa guerre. Mais c'est aussi elle qui donne une des morales, si on peut dire, de la série. Elle dit à un moment donné, d'ailleurs à sa future victime, il n'y a qu'un seul enfer et c'est celui dans lequel nous vivons tous aujourd'hui.
Ça, c'est très marlowien.
Tout à fait, c'est Marlowe. Il y a comme ça toute une réflexion dans la série qui est assez profonde, qui est très peu habituelle pour une série de ce genre. Il y a le dialogue entre Arya Stark et un aubergiste qui est sur le point de mourir, qui est blessé à mort, où elle lui dit mais pourquoi vous accrochez ? Il répond par habitude. Elle lui dit rien ne peut être pire que cela, que de souffrir comme vous souffrez. Et il lui répond mais peut-être que rien est justement pire que cela, et elle lui dit rien n'est pas meilleur ni pire que quoi que ce soit, rien n'est rien. Et il y a comme ça, ça revient constamment dans les premières saisons, cette réflexion sur une vie vide, inutile. Et un des intérêts de la série, il me semble que c'est cette opposition entre ça et quand même un certain nombre de personnages qui sont travaillés par un idéal chevaleresque, même quand ils ont tout trahi, comme le personnage, qui à mon sens en est plus intéressant, qui est le personnage de Jamie Lannister, qui est celui qu'on appelle Oathbreaker, celui qui a trahi tous ses vœux, qui a assassiné le roi, et qui en même temps est hanté par un idéal chevaleresque. Et c'est une des questions que pose la série, et qui justifie à mon avis la violence physique, c'est comment rester digne. Comment garder un minimum de sens moral dans un univers où seul compte la survie et la lutte pour le pouvoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
La question du cycle, en fait, parce que la fantasy, c'est un genre très cyclique, hein, de béton, oui. On l'a bien montré, enfin voilà, donc espèce d'absence de moralité ou cette violence, on est dans une espèce de perspective apocalyptique où tout va finir, et puis qu'est-ce qui va se passer après, en fait, hein, est-ce qu'on va peut-être retrouver, en fait, un sens de la morale après. Donc je pense que cette tension que vous décrivez, même si évidemment on peut trouver une généalogie avec Shakespeare, on peut aussi, je pense aussi, voir ça dans une espèce de lignée sur la, enfin, de perspective sur la fantasy, en fait. Voilà, il y a vraiment, voilà, il y a une catastrophe qui va arriver, mais les personnages ils vont petit à petit devenir meilleurs face aux épreuves. L'épreuve va être rédemptrice, en fait, hein. Donc il y a vraiment un côté comme ça, c'est ce que disait Tolkien Tolkien avait inventé un concept par rapport à ça, qui était le concept de l'eucatastrophe, en fait, hein. Donc une catastrophe, en fait, qui se finissait, en fin de compte, en bien, en fait, parce que on avait de justesse, en fait, prévenu cette catastrophe, et en faisant ça, en fait, on avait acquis une forme de sens moral. Donc ça, je pense qu'encore une fois, l'évolution des personnages, surtout dans les dernières saisons, je trouve que les dernières saisons sont de plus en plus morales, en fin de compte. Hein. On est des personnages qui, en effet, étaient amorales au début. Et là, je trouve que vous avez entièrement raison de citer le personnage de Jaime Lannister, qui est peut-être le plus emblématique de cette évolution. Et puis qui, petit à petit, évolue vers une forme de rédemption.
Sylviane Lazaï.
Oui, c'est intéressant. Peut-être qu'effectivement, il y a une rédemption pour ces héros presque tragiques, alors que dans les pièces de Shakespeare, il n'y a pas de rédemption.
Il n'y a pas de rédemption, voilà. Non.
Mais ce que je voulais souligner aussi, c'était cette alternance, finalement, entre des scènes d'introspection ou de dialogue philosophique sur des grandes questions sur l'existence humaine. Et donc alternance entre ces scènes très calmes, très philosophiques presque, et des scènes d'action épiques. Et c'est vrai que la série a été parfois critiquée pour ces scènes où il ne se passe rien. Qui sont effectivement plutôt shakespeariennes, mais il y a aussi beaucoup de scènes d'action dans Shakespeare, donc peut-être que c'est l'alternance, c'est ce rythme entre scènes d'inaction et scènes d'action qui vient aussi de Shakespeare, mais voilà, ça fait vraiment partie de l'ADN de la série, et je pense que ça, c'est aussi une des raisons de son succès, effectivement.
Oui, parce que l'un est justifié par l'autre. En fait, c'est le sens de la précarité de l'existence, et qui est particulièrement illustré dans les morts, et dans la manière dont les gens s'entretuent, et dans l'injustice des morts, puisque les bons tombent les premiers, qui donne une profondeur aux questions qui sont soulevées dans la série, qu'il s'agisse du sens de la vie ou du sens du pouvoir. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter ce site, en fait? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la série, d'abord?
Alors, si on s'est attaché à utiliser cette série, c'est parce qu'elle est justement extrêmement riche. Je pense qu'il n'y a pas d'autre série sur laquelle on pourrait constituer comme ça une base de données, pour parler statistiquement, où on a 400 personnages nommés sur lesquels on peut renseigner 50 caractéristiques différentes. Et justement, par exemple, en termes de caractéristiques, ce qu'on a pu renseigner, on parle des personnages qui sont populaires. Et parmi les personnages populaires, on a des personnages qui sont des choses cassées un peu. On a des infirmes, on a des bâtards, on a des nains. Donc, respectivement, si on veut citer des noms connus, on a Varys, Jon Snow ou Tyrion Lannister. Et par exemple, on voit que ces personnages sont très attachants. Parce qu'ils ont des défauts, parce qu'ils affrontent des épreuves. Et par exemple, quand on a étudié la mortalité, par l'univers riche et par ce dont je viens de parler, finalement, on peut montrer que les personnages qui ont comme ça des handicaps sont protégés de la mort. Et c'est cette richesse de l'univers qui nous a permis de faire une étude comme ça originale, mais aussi très intéressante et très riche.
Sur la question des dialogues philosophiques et des scènes d'action, il y a aussi toute la question du pouvoir, quoi, toute la réflexion. Il y a une scène fantastique je crois que c'est dans le premier épisode de la seconde saison où le seigneur Baelish, qui tient le bordel, c'est pas un seigneur d'ailleurs, qui tient le bordel de la ville, essaye plus ou moins de faire chanter Cersei Lannister en lui disant qu'il est au courant de sa relation incestueuse avec son frère, qui est à la source, relation incestueuse, qui est à la source de tout ce qui va se passer dans la série, en fait, de toutes les catastrophes qui vont s'accumuler. Et il lui dit, j'ai du pouvoir sur vous, le pouvoir, c'est la connaissance, power is knowledge. Et soudainement, elle décide de lui démontrer le contraire en le faisant saisir par ses gardes. Il aurait deux doigts d'avoir la gorge tranchée. Et elle s'avance vers lui et elle lui dit non, le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est une sorte de tautologie qui montre la supériorité de la brutalité sur toutes les sophistications qu'on peut avoir. C'est là que cette série est finalement très réaliste d'une certaine manière. Et c'est peut-être une des clés c'est peut-être dans cette noirceur et dans les questions qu'elle pose qu'il y a une des clés de son succès.
Il y a eu, si je peux me permettre, il y a eu un bouquin qui a été fait là-dessus, un livre
William
qui a été
Blanc.
Fait là-dessus, donc, qui a été dirigé notamment par Pablo Iglesias, qui est donc un des leaders de Podemos en Espagne, hein, qui mm-hmm. a écrit un livre qui s'appelle Les leçons politiques de Game of Thrones, et lui-même étant un spécialiste de sciences politiques, hein, il a un doctorat de sciences politiques, il a fait un livre là-dessus, qui était assez intéressant parce qu'il revisitait Game of Thrones en utilisant notamment Machiavel et Gramsci, c'était assez opérant en fait, hein, donc en montrant en fin de compte que voilà, oui. Ceux qui étaient trop idéalistes, hein, vous en avez parlé tout à l'heure comme Ned Stark, ils finissaient mal. Ceux qui avaient un sens politique et qui comprenaient que concrètement pour appliquer une politique, il faut d'abord avoir le pouvoir, ils arrivaient à quelque chose. Hein. Donc alors le livre, il commence à dater un petit peu vu qu'il date de 2014, mais en effet, ça reste assez opérant, même si encore une fois. Moi, je me rends compte que dans les dernières saisons, il y a une évolution quand même. Hein. Il y a des gens qui sont idéalistes, qui arrivent, hein, qui restent en vie pour l'instant.
On va voir. Il y a encore 4 épisodes.
Hein. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Donc voilà. Donc on risque d'avoir des surprises. Mais bon, en tout cas, il y a des comme Jon Snow, quelqu'un qui, enfin, il est mort une fois, mais il est revenu. Donc il a réussi à rester au pouvoir tout en étant idéaliste. Et encore une fois, je pense que ça, il faut voir aussi un écho avec les tensions contemporaines. Hein. Aux États-Unis, on idéalise beaucoup le pouvoir. Puis, en fait, dans les dernières années, en fait, même avant l'élection de Trump, hein, il y a eu de nombreuses critiques par rapport à ça, ce qui a donné des séries politiques assez sombres en fin de compte. Et donc, Game of Thrones, ça vient aussi dans ce contexte-là, quoi. Donc, une espèce d'interrogation, même parfois de désenchantement par rapport aux politiques, en fait. Et là, par contre, on est à la fin de la série, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une forme, pour l'instant, encore une fois, hein, une forme de réenchantement par rapport à la question politique, en fait. Voir est-ce qu'on va, enfin, la question plus centrale, est-ce qu'on va donc s'unir tous ensemble pour combattre le mal ultime que sont les marcheurs blancs.
Voilà. Et c'est la question que posent enfin les épisodes qu'on est en train de voir en ce moment, c'est est-ce que ça vaut le coup de se battre ou pas ? C'est-à-dire, dans cet univers de noirceur, est-ce que ça vaut le coup de se battre quand même ou bien non ?
La plupart des personnages répondent oui pour l'instant, en fait.
Oui.
Voilà, il n'y a que quelques-uns qui répondent non et c'est pas les plus recommandables. Quoi, donc,
mais avec la quasi-certitude qu'ils vont tous mourir quand même. Hein. C'est assez ambigu quand même pour l'instant encore. En tout cas, on va finir là-dessus. C'est quand même une bonne nouvelle de voir qu'une série de cette qualité, de cette ambition, fait partie de la culture. Si on peut parler de culture populaire, à l'échelle planétaire, fait partie de la culture populaire, non ?
Ben oui, absolument.
C'est une bataille.
Je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est une série de grande qualité. C'est une série formidable qui est assez caractéristique donc du phénomène autour des séries de ces dernières années qui mêle des éléments de culture populaire avec des choses beaucoup plus lettrées, enfin censées être beaucoup plus littéraires et lettrées. Et c'est un bonheur de voir que ça fonctionne, ça marche, c'est efficace, oui.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Nasser Moussaoui et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.